Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Voilà, velou, il est temps de déguster, enfin surtout de parler gastronomie avec vous, Sophie Menu. Focus ce midi sur un plat de midi par excellence, je trouve, non ? Ça se mange sur le pouce, hein, moi je l'aime bien avec des frites, hein, vous m'aviez entendu, puisque vous êtes venu aussi avec des frites, mais on peut le déguster avec de la salade, ça sera plutôt pour Jean-Marc Delorme, ça. Alors Sophie, place au club sandwich.
Alors le club sandwich, effectivement, de la viande, du poisson, du fromage, des légumes, entre deux tranches de pain, jamais une recette n'a été aussi universelle que le sandwich.
Non mais c'est bizarre ce nom d'ailleurs, ça vient d'où Sophie ?
Oui, c'est vrai. Alors si on entend parler du mot sandwich, en fait c'était au milieu du 18e siècle avec John Lord Montagu, quatrième comte de Sandwich, un Anglais qui habitait dans le Kent. Il était diplomate, amiral de la flotte du roi George III. Et les circonstances de son invention, comme souvent hein, les histoires qu'on raconte, sont assez controversées. Alors, on dit que c'est autour d'une table de jeu que la recette serait née. En fait, un soir qu'il était assis autour d'une partie de cartes, parce qu'il était très joueur, il était tellement occupé à miser que son maître d'hôtel, pour lui permettre de continuer à se concentrer sur une partie, il aurait confectionné un encas à déguster avec les doigts, une tranche de roast beef entre deux tranches de pain. Il pouvait d'une main tenir ses cartes et de l'autre croquer dans son sandwich.
Pratique, effectivement. Alors, entre jouer ou manger, il a choisi de quoi jouer
et manger. Il a choisi de jouer et de manger. Alors aussi, aujourd'hui, vous pouvez jouer et manger parce que je vous ai apporté.
Qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon ?
Donc, des clubs sandwich, il faut que vous goûtiez aussi, non, messieurs. Non. Ils arrivent direct et je remercie. C'est une nouvelle brasserie qui s'appelle la brasserie du Bio, qui est rue Saint-Denis, dans le deuxième. Ils nous l'ont préparé spécialement pour nous.
Ah ouais, ça a l'air appétissant.
Ça vient d'arriver.
Allez-y, goûtez.
Goûtez, on fera du sport après, Jean-Marc. Voilà.
Ouais.
Il faut faire combien de sport pour éliminer un club sandwich comme ça, Jean-Marc ?
Ah bah là, faut y passer la semaine, tu vois.
C'est génial, mais ça, c'est un plat universel. Hein.
C'est un plat universel, alors bien sûr. Alors, je voudrais juste revenir sur cette histoire de sandwich, parce qu'on a donné aussi ce nom de sandwich.
Hein, parce que tout le monde regarde ça et ne se jette pas dessus, moi j'y vais.
Elle est gourmande.
Non, mais Mélanie, elle avait promis qu'elle ne le ferait pas. Elle l'a fait avant d'entrer dans le studio. Elle me dit, je ne toucherai pas au club sandwich de Sophie Menu. Et regardez, elle en a pas l'air trop
bon. C'est dur de résister. Hein. Ah, c'est vrai qu'il est bon. Alors donc, simplement, oui, ce nom sandwich, on le retrouve aussi dans des îles que le navigateur James Cook a découvert. Et en fait, cette expédition était commandée par ce fameux Lord Sandwich. Alors oui, c'est un plat complètement universel, puisque depuis que le pain levé ou pas existe, en fait, on trouve du sandwich. Les hommes ont l'habitude d'emprisonner des aliments à l'intérieur. C'est pratique à emporter. Hein, Mélanie qui est en train de tout manger.
Il y a du bacon dedans, c'est délicieux.
Alors, il y a même en fait des célèbres maisons de caviar qui le préparent maintenant avec du caviar.
Hein. Oh là là, oh là, là. Avec le sandwich au caviar.
Ouais, avec les fêtes qui arrivent, c'est peut-être une idée de cadeau gastronomique. Alors, si on fait un petit tour d'horizon du sandwich ou du club sandwich. Aux États-Unis, on trouve le burger, ouais. Évidemment, de la viande hachée, du bacon et du fromage emprisonné dans du pain toasté. Au Vietnam, le banh mi. Vous connaissez le banh mi ?
Ah oui, j'ai déjà goûté, mais pas au Vietnam, mais alors, on en trouve à Paris aussi.
Ouais. C'est l'héritage de l'empire colonial, hein, puisque nous, on avait l'occupation coloniale, on avait apporté nos baguettes, et du coup, ils les ont gardées, et à l'intérieur, ils garnissent avec de la viande braisée, des légumes, du coriandre. C'est un peu fort, c'est super bon. Moi, j'ai goûté là-bas, c'est trop bon. Mm-hmm. Panini, en Italie, évidemment, oui. Avec bon, la fameuse mozzarella, et puis c'est...
Bien
c'est,
fondu.
Voilà. Hein, oh, ça dégouline un peu, moi, j'adore ça. En Mexique, la semita, c'est une sorte de brioche au sésame et garnie de viande frite, avocat et fromage. Au Danemark, le smørrebrød, qui est carrément... Vous ne connaissiez pas ?
Non, pas du tout. Smørrebrød.
Benjamin Lévesque, qui est danois, confirme, hein, c'est très bon, il nous dit. Il adore, très très bon.
Alors le smørrebrød, c'est vraiment le plat national d'ailleurs du Danemark. C'est un sandwich ouvert sur lequel on pose en fait des tas de choses, beaucoup de fruits de mer.
Du poisson fumé, non, j'imagine.
Exactement, ouais. Poisson fumé, œufs brouillés, crudités, c'est très bon. Et alors, est-ce que vous connaissez l'origine du kebab ?
Bah oui, vous nous l'avez dit une fois. Non, c'est pas vous, c'est l'Allemagne.
Ouais,
exactement. Ah oui, c'est vrai. On l'a entendu dans Bien fait pour vous.
Voilà, c'est un cuisinier turc hein, qui l'a inventé, mais qui habitait en Allemagne.
C'est Abdel Alaoui.
Bien sûr, c'est vrai.
Et alors Sophie, non seulement c'est universel, mais extrêmement consommé. Hein.
Oui, alors est-ce que vous voulez quelques chiffres ?
Allez-y.
Alors, vous allez halluciner. En France, plus de 2 milliards de sandwichs sont consommés tous les ans. 76 sont achetés chaque seconde.
Oh là là.
Représentant un chiffre d'affaires de 6,5 millions par jour. Je vais peut-être monter une sandwicherie, moi. Hein.
C'est vrai, c'est ça qu'il faut faire.
2 sur 3 sandwichs vendus sont préparés à base de charcuterie et de fromage. Et le fameux jambon beurre, en fait, remporte quasi tous les suffrages, puisque 51%. Et figurez-vous que c'est les hommes qui en consomment plus que
les femmes. Ils n'ont pas touché pourtant les deux, là.
Les sportifs ou quoi ?
Bon, écoutez, moi j'aimerais savoir comment on fait un bon club sandwich chez soi. Ça doit pas être très compliqué.
Allez, la recette. Alors la recette, il y en a beaucoup. Alors celle-là, celle qu'on a sous les yeux, c'est vraiment la classique et c'est souvent la meilleure. Hein. Alors,
ça va être très bon, je confirme.
Comme c'est simple, il faut des ingrédients de qualité. Donc on fait poêler du poulet. Il y a du poulet, du bacon. Ouais. On met de côté, on fait cuire un œuf ou deux qu'on coupe en rondelles. Et puis en fait, on fait des strates. Alors on tartine de pain, de la mayonnaise. Vous en avez au coin de la bouche d'ailleurs, Mélanie.
Oui.
Et puis on met, selon la saison, c'est toujours mieux de suivre la saison. Donc en été, on pourra mettre tomates et concombres. En hiver, peut-être plus de légumes qui soient du moment. Et puis on monte ça comme ça en couches. Et ces pains de mie, on les coupe en triangle. Et on met, comme la brasserie de Bilot l'a fait, un petit pic pour
un
tenir.
Un gros pic.
C'est pas le truc le plus facile à manger quand même. Hein.
C'est vrai.
Mais
j'en ai partout.
C'est tellement bon.
Et ça se mange sans faim, franchement.
Mais alors, j'ai pas compris, il faut aplatir, hein, c'est ça ?
Un petit peu, ouais. Pour que ça tienne et que surtout notre bouche, même très ouverte, arrive à le gober.
Oui, parce qu'il faut gober. On est d'accord que ça se mange pas en deux, hein. C'est raté. Moi, parfois, je le découpe en deux parce que ça rentre pas, mais ça, c'est nul.
Non,
il faut que ça rentre dans la bouche.
Dans votre jolie bouche.
Merci beaucoup, Sophie Menu, pour cette présentation parfaite du club sandwich. Ça n'a pas l'air si difficile à faire. Moi, j'ai tout noté. J'en ferai peut-être un très bientôt pour toute l'équipe de Bienfaits
Digitaux. Julia.
Bon, alors on revient dans quelques minutes avec d'autres tendances, notamment la tendance beauté du docteur Aurène Marco qui va nous expliquer ce qu'est cette intervention, l'abdominal hatching de faux abdos. C'est bizarre, de faux abdos avec le bistouri. Et puis pour avoir des abdos en béton, il y aura aussi les conseils sportifs de Jean-Marc Delorme qui va nous aider à sculpter nos tablettes de chocolat, mais dans le froid ce midi. Donc restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous. Nous sommes toujours en direct jusqu'à 12h30 avec nos trois chroniqueurs du jour. Les clubs sandwich de Sophie Menu sont tous, presque tous engloutis autour de la table. Et à présent, eh bien, on va se tailler des abdos. Il est temps. Des abdos bien saillants avec vous, grâce à vos mains de chirurgien, docteur Ruen Marco. On vous écoute.
Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette technique, l'abdominal etching. L'abdominal etching, c'est une technique spéciale de liposuction où on peut redessiner un petit peu la sangle abdominale et créer des faux abdominaux visibles. Donc ça, c'est une technique qui a été lancée il y a quelques années aux États-Unis, qui marche très très fort là-bas, parce que là-bas, bon, tout est dans l'excès, vous le savez. Et donc, c'est une technique spéciale de liposuction. Alors, la liposuction, tout le monde connaît. Mm-hmm. C'est une petite canule qu'on rentre par un tout petit trou et on aspire globalement le gras. Il faut le faire, effectivement, si la peau est plutôt jeune et ferme, pour avoir une belle rétraction des tissus. Et on a remarqué, en fait, qu'en traçant avec la canule de manière très superficielle, on arrivait à dessiner, c'est en voyant qu'on faisait des erreurs, c'est-à-dire que quand on était un peu trop superficiel dans la liposuction, on créait un peu soit des vagues, soit des petites encoches, et on s'est dit...
Donc ça part d'un défaut au départ,
Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer justement en faisant cette erreur, c'est-à-dire qu'en aspirant trop superficiellement sous la peau, ça faisait une petite rétraction et ça dessinait des lignes. Et donc, petit à petit est née l'idée de dessiner justement des lignes abdominales. Et donc, aux États-Unis, ça marche très très fort, il y a même des chirurgiens qui prennent la graisse, la centrifugent, la purifient et la réinjectent dans le muscle pour encore plus faire de saillies abdominales.
Ah oui.
Et donc, du coup, cette nouvelle technique est la grosse tendance.
D'accord, mais ça veut dire que vous procédez quand même d'abord à une liposuction ou
donc
pas forcément ?
On fait d'abord une liposuction globale.
D'accord, donc vous enlevez du gras.
On enlève du gras. Après, c'est vrai que on ne peut pas partir d'une sangle abdominale très relâchée. C'est quand même des gens assez sportifs et un peu gras. Chez qui on fait une liposuction et ensuite à la fin on trace vraiment les tablettes de chocolat et pour maintenir le résultat, on place des petites tiges en silicone qu'on plaque sur la peau avec un sparadrap spécial que les patientes ou les patients, c'est plutôt des hommes d'ailleurs
c'est
qui font
hommes,
sans cette invention gardent pendant 3 semaines pour bien replaquer la peau et ensuite quand on retire ça, eh bien, vous avez vraiment les tablettes qui sont dessinées. Alors,
c'est comme
tablettes
un pochoir d'abdos un peu,
ouais,
c'est
ça.
mais vous docteur, vous l'avez déjà pratiqué
sur moi?
C'est vrai,
Non, je ne l'ai pas fait.
En plus, on ne peut pas s'auto-opérer,
on peut pas s'auto-opérer. Non, oui, bien sûr, je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Après, on est toujours sur il faut toujours bien choisir ses patients. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre quelqu'un qui fait le yo-yo, qui va faire n'importe quoi derrière. Ça marche
chez
très bien.
Chez les femmes, vous ne le faites pas trop, vous, par exemple?
Les femmes, elles n'ont pas trop la demande d'avoir les tablettes de chocolat saillantes. Elles veulent avoir le ventre plus plat.
Voilà.
Mais elles ne veulent pas forcément avoir.
C'est vraiment
un truc de mec.
Oui, et puis le ventre plat, dans ces cas-là, vous faites une abdomino, je ne sais pas quoi. Là.
Voilà, pour resserrer la sangle abdominale. Mais c'est vrai que
c'est plutôt... les bodybuildeuses, les filles ne demandent pas trop des abdos saillants.
Non,
quoi, en tout
les
cas.
Filles ne veulent pas d'abdos saillants, elles veulent vraiment le ventre plat.
Est-ce que c'est beaucoup plus douloureux qu'une liposuction normale?
Non, pas du tout. On sent quasiment rien parce que la peau est indolore après l'intervention. Donc non, ça ne rajoute pas effectivement de douleurs supplémentaires. Par contre, le recul, comme d'habitude, c'est toujours ça dans la chirurgie et dans les actes de médecine esthétique. Il faut du recul sur du long terme. Et là, on n'est qu'à 4 ou 5 ans de l'explosion de cette technique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le recul sur le vieillissement de la peau dans le futur. Comment va vieillir l'abdomen après?
Est-ce qu'on les garde jusqu'à 80 ans, les abdos?
Voilà,
je ne suis pas sûre.
Le relâchement derrière, ça ne va pas justement créer des dysesthésies.
Et vous pensez, même si on n'a pas beaucoup de recul, que si un jour on en a marre de ces abdos, parce que c'est vrai, vous dites à 80 ans, on n'a pas forcément envie d'être taillé comme Musclor. Enfin, c'est bizarre, quand on a la tête qui part en live, on n'a pas forcément envie d'avoir un corps d'athlète. Est-ce que vous pourriez enlever ça? Ça s'enlève ou pas?
Alors, on peut effectivement penser à repasser la canule pour enlever les adhérences, ça pourrait être
envisageable.
En vrai, je crois que dans le futur, c'est la même question qu'on se pose avec des femmes qui vont se faire poser des implants. Et qu'est-ce qu'on fera quand elles auront 70-80 ans pour avoir déjà réopéré des patientes de 75 ans de prothèses? Elles sont coquettes et elles ne veulent pas les retirer, elles
c'est
les changent.
Ouais. Donc elles se font refaire la tête pour aller avec les seins, c'est ça? Et on est d'accord, docteur Aurène Marco, que si je mange exclusivement du club sandwich tous les jours,
voilà,
ce qui est très bon certes, vous n'allez pas m'opérer parce que ça,
il faut vraiment, de toute façon, c'est
parce
comme
que si je regrossis beaucoup, ça va disparaître,
bien,
non?
Ouais. Soit ça disparaît, soit vous avez, ça peut carrément faire
des
anomalies de chocolat. Non, mais vraiment des anomalies, c'est-à-dire que vous allez reprendre à des zones pas possibles et tout. Non, il faut vraiment rester
stable.
Stable.
Alors, du
important.
Coup, vous, docteur, vous en pensez quoi réellement? Si quelqu'un vient dans votre cabinet, c'est quelque chose que vous acceptez facilement?
J'accepte vraiment sur un patient chez qui la qualité de la peau est parfaite, sportif.
Donc jeune plutôt quand même.
Plutôt jeune.
Donc Jean-Marc Delors, quoi. Entre 30 et 45 ans, quoi,
voilà,
on va dire.
45, ouais. Qui a une hygiène de vie stable, bien, qui fait attention, qui fait du sport, mais qui n'arrive pas à se débarrasser d'un tout petit peu de gras. Et donc, du coup, on peut lui proposer effectivement.
Bon. Bah, génial. Hein. Je ne sais pas si Jean-Marc Delhomme accepterait. Bah,
surtout,
besoin,
on n'a plus besoin de lui, en fait. Là,
c'est ça.
Merci en tout cas, docteur Aurène Marco. Vous restez avec nous parce que Jean-Marc Delhomme, lui, veut nous faire des vrais abdos et en plus dans le froid.
Dans le froid.
Vous voulez qu'on se gèle? C'est quoi votre projet pour nous?
Écoutez, c'est l'hiver. Hein, donc, effectivement, il commence à faire froid. Il fait même très froid. Ce n'est pas le moment d'arrêter le sport.
Parce qu'il y en a beaucoup qui le font.
Mais oui, justement, je vais vous montrer qu'il y a plein d'avantages. Hein, et comme disait la maman d'Abdel, hein, ce qui ne tue pas te renforce. Voilà.
Il adopte les adages d'Abdel, c'est pas mal. Hein, la transmission dans cette émission. Quel est l'effet du froid, Jean-Marc, sur notre corps?
Alors, tout simplement, c'est le sang évidemment qui apporte l'oxygène, hein, dans les muscles, donc qui permet leur fonctionnalité. Et lorsqu'il fait froid, les vaisseaux sanguins se rétractent, hein, et puis le diamètre des veines et des artères vont se réduire pour préserver la température. C'est toujours ce qu'essaye de faire le corps, hein, c'est de garder une température acceptable. C'est ce qu'on appelle la vasoconstruction.
C'est bien. D'accord, ça. C'est pour ça que parfois on a les lèvres bleues.
Absolument. Absolument. C'est une des raisons, parce que le sang n'arrive pas complètement. Donc, de facto, les muscles, eh bien, ils sont moins irrigués en sang. Donc, du coup, on a besoin, évidemment, d'un échauffement beaucoup plus long.
D'accord, hein. Mais est-ce qu'il y a un intérêt véritable à s'entraîner dans le froid? Pourquoi on va souffrir?
Mais il y en a plein, parce que du coup, comme c'est un peu plus compliqué, il y a une amélioration de la circulation sanguine.
D'accord. D'accord.
Alors, la dépense de calories, on dit toujours, je suis dans le froid, je dépense plus de calories.
Ben, c'est pas vrai.
Alors, en vrai, il faut vraiment qu'on arrive sur des températures un peu extrême,
oui, hein,
parce que
ici,
ça sollicite
la graisse brune. C'est pas
trop
le cas.
Oui, c'est pas. Alors, il y a une petite dépense de calories, c'est pas non plus le délire. Même s'il y avait une étude en 2014, une étude américaine qui disait en gros que frissonner 15 minutes par jour, c'était équivalent à une heure de vélo.
On va aller sortir un peu.
Voilà, comme quoi les études,
habillé léger,
vraiment
on va frissonner.
On va dire tout ce qu'on veut.
Bon, enfin, frissonner 15 minutes, c'est vraiment pas agréable. Hein. Excusez-moi, ça fait long, du frissonnement.
Il y en a qui vont vraiment des études un peu bizarres. Mais bon. Et puis en plus, le froid, c'est très bien pour les inflammations. Hein, quand vous avez une entorse, quelque chose comme ça.
On soigne les sportifs avec ça, hein, d'ailleurs.
Voilà, avec de la cryothérapie, etc. Donc d'être dans le froid, c'est plutôt pas mal quand on a des petits
douleurs. Vous validez, docteur Aurène Marco, le froid ?
Le froid, c'est temporaire. C'est vraiment immédiat.
Ça soulage sur le moment,
mais c'est pas durable.
Voilà, et en plus, sous les 10 degrés, les battements cardiaques ont tendance à baisser de 5 battements par minute. Donc, le froid, c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est sport d'endurance, hein, donc au niveau des footings, du vélo en extérieur.
Vous pouvez continuer, Julien.
C'est pas mal.
J'en fais,
même si on n'oublie pas que les meilleures performances sportives enregistrées, c'est entre 18 et 20 degrés pour la plupart des sports.
Est-ce qu'il y a du danger, enfin des dangers à faire du sport dans le froid, à part se faire courser par un ours polaire?
Alors oui, de facto, les muscles ils sont moins irrigués en sang, donc ils sont beaucoup plus fragiles, hein, d'où l'échauffement qui doit être effectivement plus durable. Évidemment, on va éviter tout ce qui est exercice à grande amplitude articulaire, parce que du coup, évidemment, la souplesse en est aussi affectée, bien
donc,
sûr.
Donc faire du yoga dans le froid, c'est pas une bonne idée?
C'est pas terrible.
Non. Vaut mieux faire ça dans une salle chauffée.
Absolument, pas trop non plus. Hein.
D'accord.
Attention.
Okay.
Et puis, parfois, on peut aussi avoir l'asthme qui est dû au froid.
Et s'il fait froid, il y a de la pollution, restez chez vous.
Exactement,
hein,
voilà. Et alors, j'y venais, hein, sur les grosses chaleurs et les grands froids, on fait quand même attention. Si on va courir, on ne prend pas les heures d'influence de grande circulation quand tout le monde va au travail. Hein, on essaye de privilégier des moments où il y a moins de gaz d'échappement.
Il ne peut pas y avoir des chocs thermiques avec ça.
Alors, oui, il faut faire aussi attention. Hein, plus on avance dans l'âge. Donc,
Sophie Menu, elle veut prendre aucun risque. Elle préfère manger du club sandwich. Elle vous écoute, hein, parler du froid.
Elle
dit,
son truc, c'est
non,
manger
moi, je
dans
veux pas
des
avoir
endroits.
Droit de surchauffer. Je veux pas prendre de risque.
Non, mais j'irai courir après pour éliminer ce club sandwich, je vous le promets.
Je vois. Et puis, plus on avance dans l'âge, il faut faire attention à ça. Donc, pour les plus de 40 ans, donc nous, on n'est pas concernés, bien évidemment. Mais voilà, il faut faire attention aux chocs thermiques. On peut faire des crises cardiaques, hein, dû à ça.
Alors, comment on s'équipe, Jean-Marc, pour ce sport dans le froid?
Alors, c'est très simple. C'est toujours la règle des trois couches. On va avoir un t-shirt plutôt synthétique.
Comme dans le club sandwich, finalement.
Avec un tout petit peu moins d'épaisseur, peut-être, en revanche. Mais donc, un t-shirt technique qui va permettre d'imbiber la sueur. Un polaire technique. Vous avez aussi des laines. Il y a une marque qui fait ça très bien pour le froid. Et puis, une veste type Gore-Tex, tout du moins imperméable et qui va permettre aussi trois couches d'éviter s'il y a du vent.
Il faut protéger ses extrémités, non?
Les extrémités,
je vous ai vu
sûr.
Sur Instagram avec un bonnet. C'est indispensable,
oui, c'est
le bonnet. Pourquoi?
Indispensable. Hein. Il y a entre 25 et 28% de la chaleur qui s'échappe par la tête. Il faut se couvrir la tête.
Et les gants?
Les gants, c'est pareil. Soit vous mettez, si vous avez avec un sport actif, vous mettez des petits gants de soie, c'est suffisant. Si on vous rajoute une petite moufle légère, deux couches, généralement, ça fait l'affaire. Un petit tour de cou, vous en avez, vous pouvez le mettre autour des oreilles, autour du cou. Ça, c'est hyper pratique et c'est bien. Et bien sûr, un legging ou un cuissard, hein, d'accord, long, qui permet de couvrir les jambes, pas de short s'il vous plaît.
Ça va vraiment
vous aider à préserver les muscles, à éviter les blessures, hein. On peut vraiment se faire.
J'avais l'impression d'avoir plus de tonicité.
Non,
il faut vraiment faire.
Il faut vraiment faire attention à ça. Ça va vraiment apporter la chaleur suffisante pour
et
pas.
Est-ce qu'on peut se mettre une double chaussette?
Alors on évite, ça peut faire des ampoules, ça.
Chaussette, mais un peu épaisse,
un
peut-être.
Peu épaisse, alors, hein, plus pour l'hiver. Et puis évidemment, on peut rajouter aussi des lunettes pour le froid. Ça
ah,
peut,
je vous ai vu avec sur Instagram, Sophie.
Et un bon déo, à mon avis, si vous mettez de l'acrylique.
Et un bon déo. Alors, ce qu'il
toujours
faut savoir,
l'hygiène,
c'est
très
que,
important.
Contrairement à ce qu'on pense, on sue pratiquement plus en hiver qu'en été, à part que c'est évaporé.
Donc un double déo, alors.
Un double déo, mais surtout, n'oubliez pas de vous hydrater. Hein, ça, c'est hyper important. En hiver, on se déshydrate beaucoup.
Et on n'y pense pas parce qu'on a moins soif.
Et on n'y pense pas,
effectivement.
Exactement.
Très important. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour tous ces conseils sportifs qui nous seront plus qu'utiles avec la météo hein, qui va devenir de plus en plus hivernale. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais grâce à vous, on est parés. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt et donc bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. On sera évidemment de retour demain dès 11h. Julia, demain, qu'avons-nous au programme?
Alors Mélanie, si je vous dis la posture du chat botté, ça vous parle?
Bah, c'est une posture de yoga nouvelle,
c'est ça? C'est exactement ça, mais du yoga mais pour les enfants. On verra que c'est une discipline dans laquelle on peut utiliser les contes de fées pour calmer leur peur ou leur donner confiance en eux. On vous expliquera tout ça demain.
D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.